L'homme aux 40 écus. Un vieillard qui, toujours plein le présent et vante le passé, me disait « Mon ami, la France n'est pas aussi riche qu'elle l'a été sous Henri IV. Pourquoi ? C'est que les terres ne sont pas si bien cultivées. C'est que les hommes manquent à la terre et que le journalier ayant enchéri son travail, plusieurs colons laissent leurs héritages en friche. D'où vient cette dizaine de manœuvres ? De ce que quiconque s'est senti un peu d'industrie, embrassé les métiers de brodeur, de ciseleur, d'horloger, d'ouvrier en soie, de procureur ou de théologien. C'est que la révocation de l'édit de Nantes a laissé un très grand vide dans le royaume, que les religieuses et les mendiants se sont multipliés et qu'enfin chacun fuit autant qu'il a pu le travail pénible de la culture pour laquelle Dieu nous a fait naître et que nous avons rendu ignominieuse tant nous sommes censés. Une autre cause de notre pauvreté est dans nos besoins nouveaux. Il faut payer à nos voisins 4 millions d'un article et 5 ou 6 d'un autre pour mettre dans notre nez une poudre puante venue de l'Amérique. Le café, le thé, le chocolat, la cochenille, l'indigo, les épiceries nous coûtent plus de 60 millions par an. Tout cela était inconnu du temps de Henri IV, aux épiceries près, dont la consommation était bien moins grande. Nous brûlons 100 fois plus de bougies et nous tirons plus de la moitié de notre cire de l'étranger parce que nous négligeons les ruches. Nous voyons 100 fois plus de diamants aux oreilles, aux coups, aux mains de nos concitoyennes de Paris et de nos grandes villes qu'il y en avait chez toutes les dames de la cour de Henri IV, en comptant la reine. Il a fallu payer presque toutes ces superfluités, argent comptant. Le raisonnement de ce vieillard, bon ou mauvais, fit sur moi une impression profonde, car le curé de ma paroisse, qui a toujours eu de l'amitié pour moi, m'a enseigné un peu de géométrie et d'histoire, et je commence à réfléchir, ce qui est très rare dans ma province. Je ne sais s'il avait raison en tout, mais étant fort pauvre, je n'eus pas grand-peine à croire que j'avais beaucoup de compagnons. Madame de Maintenon, qui en tout genre était une femme fort entendue, excepté dans celui sur lequel elle consultait le trigo et processif abbé Gobelin, son confesseur, Madame de Maintenon, dis-je, dans une de ses lettres, fait le compte du ménage de son frère et de sa femme en 1680. Le mari et la femme avaient à payer le loyer d'une maison agréable. Leur domestique était au nombre de 10. Ils avaient 4 chevaux et 2 cochers, un bon dîner tous les jours. Madame de Maintenon évalue le tout à 9 000 francs par an et met 3 000 livres pour le jeu, les spectacles, les fantaisies et les magnificences de monsieur et de madame. Il faudrait à présent environ 40 000 livres pour mener une telle vie dans Paris. Il n'en eût fallu que 6 000 du temps de Henri IV. Cet exemple prouve assez que le vieux bonhomme ne radote pas absolument. Désastre de l'homme aux 40 écus. Je suis bien aise d'apprendre à l'univers que j'ai une terre qui me vaudrait net 40 écus de rente, n'était la taxe à laquelle elle est imposée. Il parut plusieurs édits de quelques personnes qui, se trouvant de loisirs, gouvernent l'État au coin de leur feu. Le préambule de ces édits était que la puissance, législatrice et exécutrice, est née de droit divin, copropriétaire de ma terre, et que je lui dois au moins la moitié de ce que je mange. L'énormité de l'estomac et de la puissance législatrice et exécutrice me fit faire un grand signe de croix. Que serait-ce si cette puissance, qui préside à l'ordre essentiel des sociétés, avait ma terre en entier, l'un est encore plus divin que l'autre. Monsieur le contrôleur général sait que je ne payais en tout que 12 livres, que c'était un fardeau très pesant pour moi, et que j'y aurais succombé si Dieu ne m'avait donné le génie de faire des paniers de osier qui m'aidaient à supporter ma misère. Comment donc pourrais-je tout d'un coup donner au roi 20 écus? Les nouveaux ministres disaient encore dans leur préambule qu'on ne doit taxer que les terres, parce que tout vient de la terre jusqu'à la pluie, et que par conséquent il n'y a que les fruits de la terre qui doivent l'impôt. Un de leurs huissiers vint chez moi dans la dernière guerre. Il me demanda pour ma quote-part 3 setiers de blé et un sac de fèves, le tout valant 20 écus, pour soutenir la guerre qu'on faisait et dont je n'ai jamais su la raison, ayant seulement entendu dire que dans cette guerre, il n'y avait rien à gagner du tout pour mon pays et beaucoup à perdre. Comme je n'avais alors ni blé, ni fèves, ni argent, la puissance législatrice et exécutrice me fit traîner en prison, et on fit la guerre comme on put. En sortant de mon cachot, n'ayant que la peau sur les os, je rencontrai un homme joufflu et vermeil dans un carrosse à 6 chevaux. Il avait 6 laquais et donnait à chacun d'eux pour gage le double de mon revenu. Son maître d'hôtel, aussi vermeil que lui, avait 2 000 francs d'appointement et lui en volait par an 20 000. Sa maîtresse lui coûtait 40 000 écus en 6 mois. Je l'avais connu autrefois dans le temps qu'il était moins riche que moi. Il m'avoua pour me consoler qu'il jouissait de 400 000 livres de rente. « Vous en payez donc 200 000 à l'État, lui dis-je, pour soutenir la guerre avantageuse que nous avons. Car moi, qui n'ai juste que mes 120 livres, il faut que j'en paye la moitié. « Moi, dit-il, que je contribue aux besoins de l'État. Vous voulez rire, mon ami ? J'ai hérité d'un oncle qui avait gagné 8 millions à Cadiz et à Surat. J'ai pas un pouce de terre. Tout mon bien est en contrat, en billets sur la place. Je ne dois rien à l'État. C'est à vous de donner la moitié de votre subsistance, vous qui êtes un seigneur terrien. Ne voyez-vous pas que si le ministre des Finances exigeait de moi quelques secours pour la patrie, il serait un imbécile qui ne saurait pas calculer ? Car tout vient de la terre. L'argent et les billets ne sont que des gages d'échange. Au lieu de mettre sur une carte au pharaon 100 setiers de blé, 100 bœufs, 1 000 moutons et 200 sacs d'avoine, je joue des rouleaux d'or qui représentent ces denrées dégoûtantes. Si, après avoir mis l'impôt unique sur ces denrées, on venait encore me demander de l'argent, ne voyez-vous pas que ce serait un double emploi, que ce serait demander 2 fois la même chose ? Mon oncle vendit à Cadiz pour 2 millions de votre blé et pour 2 millions d'étoffes fabriquées avec votre laine. Il gagna plus de 100% dans ces 2 affaires. Vous concevez bien que ce profit fut fait sur des terres déjà taxées. Ce que mon oncle achetait 10 sous de vous, il le revendait plus de 50 francs au Mexique. Et tout frais fait, il est revenu avec 8 millions. Vous sentez bien ? Qu'il serait d'une horrible injustice de lui redemander quelques oboles sur les 10 sous qu'il vous donna. Si 20 neveux comme moi, dont les oncles auraient gagné dans le bon temps chacun 8 millions au Mexique, à Buenos Aires, à Lima, à Surat ou à Pondichéry, prêtaient seulement à l'État chacun 200 000 francs dans les besoins urgents de la patrie, cela produirait 4 millions. Quelle horreur ! Payez, mon ami ! Vous qui jouissez en paix d'un revenu clair et net de 40 écus, servez bien la patrie et venez quelquefois dîner avec ma livrée. Ce discours plausible me fit beaucoup réfléchir et ne me consola guère. Il arrive quelquefois qu'on ne peut rien répondre et qu'on n'est pas persuadé. On est atterré sans pouvoir être convaincu. On sent dans le fond de son âme un scrupule, une répugnance qui nous empêche de croire ce qu'on nous a prouvé. Un géomètre vous démontre qu'entre un cercle et une tangente, vous pouvez faire passer une infinité de lignes courbes et que vous n'en pouvez faire passer une droite. Aux yeux, votre raison vous dit le contraire. Le géomètre vous répond gravement que c'est là un fait infini du second ordre. Vous vous taisez, vous vous en retournez tout stupéfait, sans avoir aucune idée nette, sans rien comprendre et sans rien répliquer. Vous consultez un géomètre de meilleure foi qui vous explique le mystère. Nous supposons, dit-il, ce qui ne peut être dans la nature, des lignes qui ont de la longueur sans largeur. Il est impossible, physiquement parlant, qu'une ligne réelle en pénètre une autre. Nulle courbe ni nulle droite ne réelle ne peut passer entre deux lignes réelles qui se touchent. Ce ne sont là que les jeux de l'entendement, des chimères idéales. Et la véritable géométrie est l'art de mesurer les choses existantes. Je fus très content de l'aveu de ce sage mathématicien, et je me mis à rire dans mon malheur d'apprendre qu'il y avait de la charlatanerie jusque dans la science qu'on appelle la haute science. Entretien avec un géomètre. Mon géomètre était un citoyen philosophe qui avait daigné quelquefois causer avec moi dans ma chaumière. Je lui dis: « Monsieur, vous avez tâché d'éclairer les badauds de Paris sur le plus grand intérêt des hommes, la durée de la vie humaine. Le ministère a connu par vous seul ce qu'il doit donner aux rentiers viagers selon leurs différents âges. Vous avez proposé de donner aux maisons de la ville l'eau qui leur manque et de nous sauver enfin de l'opprobre et du ridicule, d'entendre toujours crier à l'eau et de voir des femmes enfermées dans un cerceau oblong porter deux seaux d'eau pesant ensemble 30 livres à un quatrième étage auprès d'un privé. Faites-moi, je vous prie l'amitié, de me dire combien il y a d'animaux à deux mains et à deux pieds en France. » Le géomètre: « Oh, on prétend qu'il y a environ 20 millions, et je veux bien adopter ce calcul très probable, en attendant qu'on le vérifie. Ce qui serait très aisé, ce qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on ne s'avise jamais de tout. Cela est prouvé par les mémoires des intendants, faits à la fin du XVIIe siècle, combinés avec le dénombrement par feu composé en 1753 par ordre de M. le comte d'Argenson, et surtout avec l'ouvrage très exact de M. de Maisance, fait sous les yeux de M. l'intendant de la Michaudière, l'un des hommes les plus éclairés. » L'homme aux 40 écus. Combien croyez-vous que le territoire de France contienne d'arpents? Le géomètre: 130 millions, dont presque la moitié est en chemin, en ville, village, landes, bruyères, marais, sable, terre stérile, couvents inutiles, jardins de plaisance, plus agréables qu'utiles, terrain inculte, mauvais terrain mal cultivé. On pourrait réduire les terres d'un bon rapport à 75 millions d'arpents carrés. Mais comptons-en 80 millions, on ne saurait trop faire pour sa patrie. » L'homme aux 40 écus: « Combien croyez-vous que chaque arpent rapporte l'un dans l'autre, année commune en blé, en semences de toute espèce, vin, étang, bois, métaux, bestiaux, fruits, laine, soie, lait, huile, enfin, tout frais fait, sans compter l'impôt? » Le géomètre: « Ben, s'ils produisent chacun 25 livres, c'est beaucoup. Cependant, mettons 30 livres, pour ne pas décourager nos concitoyens. Il y a des arpents qui produisent des valeurs renaissantes, estimées 300 livres, il y en a qui produisent 3 livres. La moyenne proportionnelle entre 300 et 3 est 30, car vous voyez bien que 3 est à 30 comme 30 est à 300. Il est vrai que s'il y avait beaucoup d'arpents à 30 livres et très peu à 300 livres, notre compte ne s'y trouverait pas, mais encore une fois, je ne veux point chicaner. » « Eh bien, monsieur, combien les 80 millions d'arpents donneront-ils de revenus, estimés en argent ?»« Oh, le compte est tout fait, cela produit par an 2 milliards, 400 millions de livres numéraires au cours de ce jour. » J'ai lu que Salomon possédait lui seul 25 milliards d'argent comptant, et certainement il n'y a pas 2 milliards 400 millions d'espèces circulantes dans la France, qu'on m'a dit être beaucoup plus grande et plus riche que le pays de Salomon. Ah, c'est là le mystère! Il y a peut-être à présent environ 900 millions d'argent circulant dans le royaume, et cet argent, en passant de main en main, suffit pour payer toutes les denrées et tous les travaux. Le même écu peut passer 1000 fois de la poche du cultivateur dans celle du cabaretier et du commis des aides. J'entends, mais Vous m'avez dit que nous sommes 20 millions d'habitants, hommes et femmes, vieillards et enfants. Combien pour chacun, s'il vous plaît? 120 livres ou 40 écus. Vous avez deviné tout juste mon revenu. J'ai quatre arpents qui, en comptant les années de repos mêlées avec les années de produits, me valent 120 livres. C'est peu de choses. Quoi? Si chacun avait une portion égale, comme dans l'âge d'or, chacun n'aurait que 5 louis d'or par an. Ah, pas davantage, suivant notre calcul que j'ai un peu enflé. Tel est l'état de la nature humaine. La vie et la fortune sont bien bornées. On ne vit à Paris, l'un portant l'autre, que 22 à 23 ans. L'un portant l'autre, on a tout au plus que 120 livres par an à dépenser, c'est-à-dire que votre nourriture, votre vêtement, votre logement, vos meubles sont représentés par la somme de 120 livres. Ah, hélas! Mais que vous ai-je fait pour m'ôter ainsi la fortune et la vie? Est-il vrai que je n'ai que 23 ans à vivre, à moins que je ne vole la part de mes camarades? Oh, cela est incontestable dans la bonne ville de Paris. Mais de ces 23 ans, il en faut retrancher au moins 10 de votre enfance, car l'enfance n'est pas une jouissance de la vie, c'est une préparation. C'est le vestibule de l'édifice, c'est l'arbre qui n'a pas encore donné de fruits, c'est le crépuscule d'un jour. Retranchez les 13 années qui vous restent le temps du sommeil et celui de l'ennui, c'est au moins la moitié, alors reste 6 ans et demi que vous passez dans le chagrin, les douleurs, quelques plaisirs et l'espérance. Mais miséricorde! Votre compte ne va pas à 3 ans d'une existence supportable? Ah, ce n'est pas ma faute. La nature se soucie fort peu des individus. Il y a d'autres insectes qui ne vivent qu'un jour, mais dont l'espèce dure à jamais. La nature est comme ces grands princes qui comptent pour rien la perte de 400 000 hommes, pourvu qu'ils viennent à bout de leurs augustes desseins. L'homme aux 40 écus. Mais 40 écus et 3 ans à vivre, mais quelles ressources imagineriez-vous contre ces deux malédictions? Oh, pour la vie, il faudrait rendre dans Paris l'air plus pur, que les hommes mangeassent moins, qu'ils fissent plus d'exercice, que les mères allaitassent leurs enfants, qu'on ne fût plus assez mal avisé pour craindre l'inoculation. C'est ce que j'ai déjà dit, et pour la fortune, il n'y a qu'à se marier et faire des garçons et des filles. Quoi, le moyen de vivre commodément est d'associer ma misère à celle d'un autre? 5 ou 6 misères ensemble font un établissement très tolérable. Ayez une brave femme, 2 garçons et 2 filles seulement, cela fait 720 livres pour votre petit ménage. Supposez que justice soit faite et que chaque individu ait 120 livres de rente. Vos enfants en bas âge ne vous coûtent presque rien. Devenus grands, ils vous soulagent. Leur secours mutuel vous sauve presque toutes les dépenses et vous vivez très heureusement en philosophe, pourvu que ces messieurs qui gouvernent l'État n'aient pas la barbarie de vous extorquer à chacun 20 écus par an. Mais le malheur est que nous ne sommes plus dans l'âge d'or, où les hommes, nés tous égaux, avaient également part aux productions succulentes d'une terre non cultivée. Et il s'en faut beaucoup aujourd'hui que chaque être à 2 mains et à 2 pieds possède un fonds de 120 livres de revenus. Ah, mais vous vous ruinez! Vous nous disiez tout à l'heure que dans un pays où il y a 80 millions d'arpents de terre assez bonnes et 20 millions d'habitants, chacun doit jouir de 120 livres de rente, et vous nous les ôtez. Alors je comptais suivant les registres du siècle d'or, et il faut compter suivant le siècle de fer. Il y a beaucoup d'habitants qui n'ont que la valeur de 10 écus de rente, d'autres qui n'en ont que 4 ou 5. Et plus de 6 millions d'hommes. qui n'ont absolument rien. Mais il mourrait de faim au bout de 3 jours. Point du tout. Les autres qui possèdent leur portion les font travailler et partagent avec eux. C'est ce qui paye le théologien, le confiturier, l'apothicaire, le prédicateur, le comédien, le procureur et le fiacre. Vous vous êtes cru à plaindre de n'avoir que 120 livres à dépenser par an, réduite à 108 livres à cause de votre taxe de 12 francs. Mais regardez les soldats qui donnent leur sang pour la patrie. Ils ne disposent à 4 sous par jour que de 73 livres et ils vivent gaiement en s'associant par chambrée. Ainsi donc un ex-jésuite a plus de 5 fois la paye du soldat. Mais cependant les soldats ont rendu plus de services à un état sous les yeux du roi à Fontenoy, à Lofeld, au siège de Fribourg, que n'en a jamais rendu le révérend père Lavalette. Rien n'est plus vrai, et même chaque jésuite devenu libre a plus à dépenser qu'il ne coûtait à son couvent. Il y en a même qui ont gagné beaucoup d'argent à faire des brochures contre les parlements, comme le révérend père Patouillet et le révérend père Nonotte. Chacun s'ingénie dans ce monde. L'un est à la tête d'une manufacture d'étoffes, l'autre de porcelaine, un autre entreprend l'opéra, celui-ci fait la gazette ecclésiastique, cet autre une tragédie bourgeoise ou un roman dans le goût anglais. Il entretient le papetier, le marchand d'encre, le libraire, le colporteur, qui sans lui demanderait l'aumône. Ce n'est enfin que la restitution de 120 livres à ceux qui n'ont rien qui fait fleurir l'État. Parfaite manière de fleurir. Mais il n'y en a point d'autre. Partout pays, le riche fait vivre le pauvre. Voilà l'unique source de l'industrie du commerce. Plus la nation est industrielle, plus elle gagne sur l'étranger. Si nous attrapions de l'étranger 10 millions par an pour la balance du commerce, il y aurait dans 20 ans 200 millions de plus dans l'État. Ce serait 10 francs de plus à répartir loyalement sur chaque tête, c'est-à-dire que les négociants feraient gagner à chaque pauvre 10 francs de plus, dans l'espérance de faire des gains encore plus considérables. Mais le commerce a ses bornes, comme la fertilité de la terre, autrement, la progression irait à l'infini. Et puis, il n'est pas sûr que la balance de notre commerce nous soit toujours favorable. Il y a des temps où nous perdons. J'ai entendu parler beaucoup de population. Si nous nous avisions de faire le double d'enfants de ce que nous en faisons, si notre patrie était peuplée du double, si nous avions 40 millions d'habitants au lieu de 20, qu'arriverait-il? Il arriverait que chacun n'aurait à dépenser que 20 écus, l'un portant l'autre, ou qu'il faudrait que la terre rendît le double de ce qu'elle rend, ou qu'il y aurait le double de pauvres, ou qu'il faudrait avoir le double d'industrie et gagner le double sur l'étranger, ou envoyer la moitié de la nation en Amérique, ou que la moitié de la nation mangeât l'autre. Alors contentons-nous donc de nos 20 millions d'hommes et de nos 120 livres par tête, répartis comme il plaît à Dieu. Mais cette situation est triste, et votre siècle de fer est bien dur. Il n'y a aucune nation qui soit mieux, et il en est beaucoup qui sont plus mal. Croyez-vous qu'il y ait dans le Nord de quoi donner la valeur de 120 livres à chaque habitant? S'ils avaient eu l'équivalent, les Huns, les Gauls, les Vandales et les Francs n'auraient pas déserté leur patrie pour aller s'établir ailleurs, le fer et la flamme à la main. Si je vous laissais dire, vous me persuaderiez bientôt que je suis heureux avec mes 120 francs. Si vous pensiez être heureux, en ce cas vous le seriez. Mais on ne peut s'imaginer être ce qu'on n'est pas, à moins qu'on ne soit fou. Je vous ai déjà dit que pour être plus à votre aise et plus heureux que vous n'êtes, il faut que vous preniez une femme. Mais j'ajouterai qu'elle doit avoir, comme vous, 120 livres de rente, c'est-à-dire 4 arpents, à 10 écus l'arpent. Les anciens romains n'en avaient chacun que 3. Si vos enfants sont industrieux, ils pourront en gagner chacun autant en travaillant pour les autres. Ainsi, ils ne pourront avoir de l'argent sans que d'autres en perdent. C'est la loi de toutes les nations. On ne respire qu'à ce prix. Et il faudra que ma femme et moi, nous donnions chacun la moitié de notre récolte à la puissance législatrice et exécutrice, et que les nouveaux ministres d'État nous enlèvent la moitié du prix de nos sueurs et de la substance de nos pauvres enfants avant qu'ils puissent gagner leur vie. Dites-moi, je vous prie, combien nos nouveaux ministres font entrer d'argent de droit divin dans les coffres du roi? Vous payez 20 écus pour 4 arpents qui vous emportent 40. L'homme riche qui possède 400 arpents paiera 2000 écus par ce nouveau tarif, et les 80 millions d'arpents rendront au roi 1200 millions de livres par année, ou 400 millions d'écus. Cela me paraît impraticable et impossible. Ah, vous avez très grande raison, et cette impossibilité est une démonstration géométrique qu'il y a un vice fondamental de raisonnement dans nos nouveaux ministres. Mais n'y a-t-il pas aussi une prodigieuse injustice démontrée à me prendre la moitié de mon blé, de mon chanvre, de la laine de mes moutons, etc., et de n'exiger aucun secours de ceux qui auront gagné 10 ou 20 ou 30 000 livres de rente avec mon chanvre dont ils ont tissu de la toile, avec ma laine dont ils ont fabriqué des draps, et avec mon blé qu'ils auront vendu plus cher qu'ils ne l'ont acheté? Ben, l'injustice de cette administration est aussi évidente que son calcul est erroné. Il faut que l'industrie soit favorisée, mais il faut que l'industrie opulente secoure l'État. Cette industrie vous a certainement ôté une partie de vos 120 livres et se les est appropriée en vous vendant vos chemises et votre habit 20 fois plus cher qu'ils ne vous auraient coûté si vous les aviez faits vous-même. Et le manufacturier qui s'est enrichi à vos dépens a, je l'avoue, donné un salaire à ses ouvriers qui n'avaient rien par eux-mêmes, mais il a retenu pour lui chaque année une somme qui lui a valu enfin 30 000 livres de rente. Il a donc acquis cette fortune à vos dépens. Vous ne pourrez jamais lui vendre vos denrées assez chères pour vous rembourser de ce qu'il a gagné sur vous. Car si vous tentiez sur surhaussement, il en ferait venir de l'étranger à meilleur prix. Une preuve que cela est ainsi, c'est qu'il reste toujours possesseur de ses 30 000 livres de rente, et vous restez avec vos 120 livres, qui diminuent souvent, bien loin d'augmenter. Il est donc nécessaire et équitable que l'industrie raffinée du négociant paye plus que l'industrie grossière du laboureur. Il en est de même des receveurs des derniers publics. Votre taxe avait été jusqu'ici de 12 francs avant que nos grands ministres vous eussent pris 20 écus. Sur ces 12 francs, le publicain retenait 10 sols pour lui. Si dans votre province il y a 500 000 âmes, il aura gagné 250 000 francs par an. Qu'il en dépense 50, il est clair qu'au bout de 10 ans, il aura 2 millions de biens. Il est très juste qu'il contribue à proportion, sans quoi tout serait perverti et bouleversé. Je vous remercie d'avoir taxé ce financier, mais cela soulage mon imagination. Mais puisqu'il a si bien augmenté son superflu, comment puis-je faire pour accroître aussi ma petite fortune? Je vous l'ai déjà dit, en vous mariant, en travaillant, en tâchant de tirer de votre terre quelques gerbes de plus que ce qu'elle vous produisait. Je suppose que j'ai bien travaillé, que toute la nation en ait fait autant, que la puissance législatrice et exécutrice en ait reçu un plus gros tribut. Combien la nation a-t-elle gagné au bout de l'année? Bah, rien du tout, à moins qu'elle n'ait fait un commerce étranger utile. Mais elle aura vécu plus commodément. Chacun aura eu à proportion plus d'habits, de chemises, de meubles qu'il n'en avait auparavant. Il y aura eu dans l'État une circulation plus abondante. Les salaires auront été augmentés avec le temps, à peu près en proportion du nombre de gerbes de blé, de toisons de moutons, de cuir de bœuf, de cerfs et de chèvres qui auront été employés, de grappes de raisin qu'on aura foulées dans le pressoir. On aura payé au roi plus de valeur de denrées en argent, et le roi aura rendu plus de valeur à tous ceux qu'il aura fait travailler sous ses ordres. Mais il n'y aura pas un écu de plus dans le royaume. Que restera-t-il donc à la puissance au bout de l'année? Rien, encore une fois. C'est ce qui arrive à toute puissance, elle ne thésaurise pas. Elle a été nourrie, vêtue, logée, meublée. Tout le monde l'a été aussi, chacun suivant son état. Et si elle thésaurise, elle a arraché à la circulation autant d'argent qu'elle en a entassé. Elle en a fait autant de malheureux qu'elle a mis le foie 40 écus dans ses coffres. Mais alors ce grand Henri IV n'était donc qu'un vilain, un ladre, un pillard? Car on m'a conté qu'il avait encaqué dans la Bastille plus de 50 millions de notre monnaie d'aujourd'hui. C'était un homme aussi bon, aussi prudent que malheureux. Il allait faire une juste guerre, et en amassant dans ses coffres 22 millions de son temps, en ayant encore à recevoir plus de 20 autres qu'il laissait circuler, il épargnait à son peuple plus de 100 millions qu'il en aurait coûté s'il n'avait pas pris ses utiles mesures. Il se rendait moralement sûr du succès contre un ennemi qui n'avait pas les mêmes précautions. Le calcul des probabilités était prodigieusement en sa faveur. Ces 22 millions encaissés prouvaient qu'il y avait alors dans le royaume la valeur de 22 millions d'excédents dans les biens de la terre. Ainsi, personne ne souffrait. Mon vieillard me l'avait bien dit, qu'on était à proportion plus riche sous l'administration du duc de Sully que sous celle des nouveaux ministres qui ont mis l'impôt unique et qui m'ont pris 20 écus sur 40. Dites-moi, je vous prie, y a-t-il une nation au monde qui jouisse de ce beau bénéfice de l'impôt unique? Pas une nation opulente, non, les Anglais, qui ne rient guère, se sont mis à rire quand ils ont appris que des gens d'esprit avaient proposé parmi nous cette administration. Les Chinois exigent une taxe de tous les vaisseaux marchands qui abordent à Canton. Les Hollandais payent à Nagasaki quand ils sont reçus au Japon, sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens. Les Lapons et les Samoyèdes, à la vérité, sont soumis à un impôt unique en peau de martre. La République de Saint-Marin ne paye que des dîmes pour entretenir l'État dans sa splendeur. Il y a dans notre Europe une nation célèbre par son équité et par sa valeur, qui ne paye aucune taxe. C'est le peuple helvétien. Mais voici ce qui est arrivé. Ce peuple s'est mis à la place des ducs d'Autriche et de Zeyring. Les petits cantons sont démocratiques et très pauvres. Chaque habitant y paye une somme très modique pour les besoins de la petite république. Dans les cantons riches, on est chargé envers l'État des redevances que les archiducs d'Autriche et les seigneurs fonciers exigeaient. Les cantons protestants sont à proportion du double plus riches que les catholiques parce que l'État y possède les biens des moines. Ce qui était sujet des archiducs d'Autriche, des ducs de Zeyring et des moines, le sont aujourd'hui de la patrie. Ils payent à cette patrie les mêmes dîmes, les mêmes droits, les mêmes lots et ventes qu'ils payaient à leurs anciens maîtres. Et comme les sujets, en général, ont très peu de commerce, le négoce n'est assujetti à aucune charge, excepté le petit droit d'entrepôt. Les hommes trafiquent de leur valeur avec les puissances étrangères et se vendent pour quelques années, ce qui fait entrer quelque argent dans leur pays à nos dépens. Et c'est un exemple aussi unique dans le monde policé que l'est l'impôt établi par vos nouveaux législateurs. Ainsi, monsieur, les Suisses ne sont pas de droit divin, dépouillés de la moitié de leurs biens. Et celui qui possède 4 vaches n'en donne pas 2 à l'État ? Non, sans doute. Dans un canton, sur 13 tonneaux de vin, on en donne 1 et on en boit 12. Dans un autre canton, on paye la 12e partie et on en boit 11. Oh, alors qu'on me fasse Suisse, le maudit impôt que l'impôt unique et inique qui m'a réduit à demander l'aumône. Mais 300 ou 400 impôts, dont les noms mêmes sont impossibles à retenir et à prononcer, sont-ils plus justes et plus honnêtes? Y a-t-il jamais eu un législateur qui, en fondant un État, ait imaginé de créer des conseillers du roi, mesureurs de charbon, jaugeurs de vin, mouleurs de bois, languilleurs de porc, contrôleurs de beurre salé? D'entretenir une armée de faquins 2 fois plus nombreuse que celle d'Alexandre commandée par 60 généraux qui mettent le pays à contribution, qui remportent des victoires signalées tous les jours, qui font des prisonniers et qui quelquefois les sacrifient en l'air ou sur un petit théâtre de planches comme faisaient les anciens scythes, à ce que m'a dit mon curé. Une telle législation, contre laquelle tant de cris s'élevaient et qui faisait verser tant de larmes, valait-elle mieux que celle qui m'ôte tout d'un coup, nettement et paisiblement, la moitié de mon existence? J'ai peur qu'à bien compter, on ne m'en prît en détail les 3/4 sous l'ancienne finance. Il y a cause frit tabulos peccatur et extra est modus in rebus. Caveas ne quid nimis. J'ai appris un peu d'histoire et de géométrie, mais je ne sais pas le latin. Bah, cela signifie à peu près, on a tort des 2 côtés, gardez le milieu en tout, rien de trop. Oui, rien de trop, c'est ma situation, mais je n'ai pas assez. Ah, je conviens que vous périrez de faim, et moi aussi, et l'État aussi. Supposez que la nouvelle administration dure seulement 2 ans, mais il faut espérer que Dieu aura pitié de nous. On passe sa vie à espérer, et on meurt en espérant. Ah, Dieu, monsieur, vous m'avez instruit, mais j'ai le cœur navré. C'est souvent le fruit de la science. Aventure avec un carme. Quand j'eus bien remercié l'académicien de l'Académie des sciences de m'avoir mis au fait, je m'en allais tout pantois, louant la Providence, mais grommelant entre mes dents ces tristes paroles. Je me trouvais bientôt vis-à-vis d'une maison superbe. Je sentais déjà la faim. Je n'avais pas seulement la 120e partie de la somme lui appartient de droit à chaque individu. Mais dès qu'on m'eut appris que ce palais était le couvent des révérends pères Carmes des Chaussées, je conçus de grandes espérances et je dis, puisque ces saints sont assez humbles pour marcher pieds nus, ils seront assez charitables pour me donner à dîner. Je sonnai. Un carme vint. « Que voulez-vous, mon fils ?» « Oh, du pain, mon révérend père, les nouveaux édits m'ont tout ôté. »« Mon fils, nous demandons nous-mêmes l'aumône. Nous ne la faisons pas. »« Quoi, votre saint institut vous ordonne de n'avoir pas de souliers? Vous avez une maison de prince Et vous me refusez à manger ? Mon fils, il est vrai que nous sommes sans souliers, sans bas. C'est une dépense de moins, mais nous n'avons pas plus froid aux pieds qu'aux mains. Et si notre saint institut nous avait ordonné d'aller cul nus, nous n'aurions point froid au derrière. À l'égard de notre belle maison, nous l'avons aisément bâtie parce que nous avons 100 000 livres de rente en maison dans la même rue. Ah ah! Vous me laissez mourir de faim, et vous avez 100 000 livres de rente? Vous en rendez donc 50 000 au nouveau gouvernement. Oh Dieu, nous préserve de payer une obole, le seul produit de la terre cultivée par des mains laborieuses, endurcie de calus et mouillé de larmes, doit des tributs à la puissance législatrice et exécutrice. Les aumônes qu'on nous a données nous ont mis en état de faire bâtir ces maisons, dont nous tirons 100 000 livres par an, mais ces aumônes, venant des fruits de la terre, ayant déjà payé le tribut, elles ne doivent pas payer deux fois. Elles ont sanctifié les fidèles qui se sont appauvris en nous enrichissant, et nous continuons à demander l'aumône et à mettre à contribution le faubourg Saint-Germain pour sanctifier encore les fidèles. Ayant dit ces mots, le carme me ferma la porte au nez. Je passais par devant l'hôtel des mousquetaires gris. Je contais la chose à un de ces messieurs. Ils me donnèrent un bon dîner et un écu. L'un d'eux proposa d'aller brûler le couvent, mais un mousquetaire plus sage lui montra que le temps n'était pas encore venu et le pria d'attendre encore 2 ou 3 ans. Audience de monsieur le contrôleur général. J'allais, avec mon écu, présenter un placet à monsieur le contrôleur général qui donnait audience ce jour-là. Son antichambre était remplie de gens de toute espèce. Il y avait surtout des visages encore plus pleins, des ventres plus rebondis, des mines plus fières que mon homme aux 8 millions. Je n'osais m'approcher, je les voyais, et ils ne me voyaient pas. Un moine, gros décimateur, avait intenté un procès à des citoyens qu'il appelait ses paysans. Il avait déjà plus de revenus que la moitié de ses paroissiens ensemble, et de plus, il était seigneur de fief. Il prétendait que ses vassaux, ayant converti avec des peines extrêmes leurs bruyères en vigne, ils lui devaient la 1/10 partie de leur vin, ce qui faisait, en comptant le prix du travail et des échalas, et des futailles et du cellier, plus du quart de la récolte. Mais comme les dîmes, disait-il, sont de droit divin, je demande le quart de la substance de mes paysans au nom de Dieu. Le ministre lui dit : Oh, je vois combien vous êtes charitable. Un fermier général, fort intelligent dans les aides, lui dit alors : Monseigneur, ce village ne peut rien donner à ce moine, car ayant fait payer aux paroissiens l'année passée 32 impôts pour leur vin, et les ayant fait condamner ensuite à payer le trobu, ils sont entièrement ruinés. J'ai fait vendre leurs bestiaux et leurs meubles. Ils sont encore mes redevables. Je m'oppose aux prétentions du révérend père. Oh, vous avez raison d'être son rival, repartit le ministre. Vous aimez l'un et l'autre également votre prochain, et vous m'édifiez tous deux. Un troisième, moine et seigneur, dont les paysans sont mains mortables, attendait aussi un arrêt du conseil qui le mit en possession de tout le bien d'un badaud de Paris, qui, ayant par inadvertance demeuré 1 an et 1 jour dans une maison sujette à cette servitude et enclavée dans les états de ce prêtre, y était mort au bout de l'année. Le moine réclamait tout le bien du badaud, et cela de droit divin. Le ministre trouva le cœur du moine aussi juste et aussi tendre que les deux premiers. Un quatrième, qui était contrôleur du domaine, présenta un beau mémoire par lequel il se justifiait d'avoir réduit 20 familles à l'aumône. Elles avaient hérité de leurs oncles ou tantes ou frères ou cousins. Il avait fallu payer les droits, et le domanier leur avait prouvé généreusement qu'elles n'avaient pas assez estimé leurs héritages, qu'elles étaient beaucoup plus riches qu'elles ne croyaient, et en conséquence, les ayant condamnées à l'amende du triple, les ayant ruinées en frais et fait mettre en prison les pères de famille, il avait acheté leurs meilleures possessions sans bourse déliée. Le contrôleur général lui dit, d'un ton un peu amer à la vérité, « Eh, j'ai, contrôleur, bonne fidélis, quia supra pauca fuisti fidélis, fermier général te constituam. » Cependant, il dit tout bas à un maître des requêtes qui était à côté de lui, des hommes d'un génie profond lui présentèrent des projets, l'un avait imaginé de mettre des impôts sur l'esprit. Le ministre lui dit, « Je vous déclare exempt de la taxe. » Un autre proposa d'établir l'impôt unique sur les chansons et sur le rire, attendu que la nation était la plus gaie du monde et qu'une chanson la consolait de tout. Mais le ministre observa que depuis quelque temps, on ne faisait plus guère de chansons plaisantes et il craignit que pour échapper à la taxe, on ne devint trop sérieux. Vint un sage et brave citoyen qui offrit de donner au roi 3 fois plus en faisant payer par la nation 3 fois moins. Le ministre lui conseilla d'apprendre l'arithmétique. Un cinquième prouvait au roi, par amitié, qu'il ne pouvait recueillir que 75 millions, mais qu'il fallait lui en donner 225. Oh, « Vous me ferez plaisir, dit le ministre, quand nous aurons payé les dettes de l'État. » Enfin, arriva un commis de l'auteur nouveau qui fait la puissance législatrice, copropriétaire de toutes nos terres par le droit divin, et qui donnait au roi 1 200 000 000 de rente. Je reconnus l'homme qui m'avait mis en prison pour n'avoir pas payé mes 20 écus. Je me jetai aux pieds de monsieur le contrôleur général et je lui demandai justice. Il fit un grand éclat de rire et me dit que c'était un tour qu'on m'avait joué. Il ordonna à ses mauvais plaisants de me donner 100 écus de dédommagement et m'exempta de taille pour le reste de ma vie. Je lui dis, « Monseigneur, Dieu vous bénisse !» Je me fis expliquer ces paroles par un savant à 40 écus. Elles me réjouirent. Le cas à peu près semblable est arrivé dans la province que j'habite et le contrôleur du domaine a été forcé à faire restitution, mais il n'a pas été puni. Lettre à l'homme aux 40 écus. Quoique je sois 3 fois aussi riche que vous, c'est-à-dire quoique je possède 360 livres ou francs de revenus, je vous écris cependant comme d'égal à égal, sans affecter l'orgueil des grandes fortunes. J'ai lu l'histoire de votre désastre et de la justice que monsieur le contrôleur général vous a rendue. Je vous en fais mon compliment. Mais, par malheur, je viens de lire le financier citoyen, malgré la répugnance que m'avait inspiré le titre, qui paraît contradictoire à bien des gens. Ce citoyen vous ôte 20 francs de vos rentes et à moi 60. Il n'accorde que 100 francs à chaque individu sur la totalité des habitants, mais en récompense, un homme non moins illustre enfle nos recettes jusqu'à 150 livres. Je vois que votre géomètre a pris un juste milieu. Il n'est point de ces magnifiques seigneurs qui d'un trait de plume peuplent Paris d'un 1 000 000 d'habitants et vous font rouler 1 500 000 000 d'espèces sonnantes dans le royaume après tout ce que nous en avons perdu dans nos guerres dernières. Comme vous êtes grand lecteur, je vous prêterai le financier citoyen, mais n'allez pas le croire en tout. Il cite le testament du grand ministre Colbert et il ne sait pas que c'est une rhapsodie ridicule faite par un Gatien de Courtils. Il cite la dîme du maréchal de Vauban et il ne sait pas qu'elle est d'un bois Guilbert. Il cite le testament du cardinal de Richelieu et il ne sait pas qu'il est de l'abbé de Bourseis. Il suppose que ce cardinal assure que, quand la viande enchérit, On donne une paye plus forte aux soldats. Cependant, la viande enchérit beaucoup sous son ministère, et la paye du soldat n'augmente point, ce qui prouve, indépendamment de 100 autres preuves, que ce livre, reconnu pour supposé dès qu'il parut, et ensuite attribué au cardinal même, ne lui appartient pas plus que les testaments du cardinal Béroni et du maréchal de Belle-Île ne leur appartiennent. Défiez-vous toute votre vie des testaments et des systèmes. J'en ai été la victime comme vous. Si les Solons et les Lycurgues modernes se sont moqués de vous, les nouveaux Triptolèmes se sont encore plus moqués de moi, et, sans une petite succession qui m'a ranimé, j'étais mort de misère. J'ai 120 arpents labourables dans le plus beau pays de la nature et le sol le plus ingrat. Chaque arpent ne rend tout frais fait dans mon pays qu'un écu de 3 livres. Dès que j'eus lu dans les journaux qu'un célèbre agriculteur avait inventé un nouveau semoir et qu'il labourait sa terre par planches, afin qu'en semant moins il recueillît davantage, j'empruntais vite de l'argent, j'achetais un semoir, je labourais par planches, je perdis ma peine et mon argent, aussi bien que l'illustre agriculteur qui ne sème plus par planches. Mon malheur voulut que je lusse le journal économique qui se vend à Paris chez Boudot. Je tombai sur l'expérience d'un Parisien ingénieux qui, pour se réjouir, avait fait labourer son parterre 15 fois, y avait semé du froment au lieu d'y planter des tulipes. Il eut une récolte très abondante. J'empruntais encore de l'argent. « Je n'ai qu'à donner 30 labours, me disais-je, j'aurai le double de la récolte de ce digne Parisien qui s'est formé des principes d'agriculture à l'opéra et à la comédie, et me voilà enrichi par ses leçons et par son exemple. » Labourer seulement 4 fois dans mon pays est une chose impossible. La rigueur et les changements soudains des saisons me le permettent pas. Et d'ailleurs, le malheur que j'avais eu de semer par planches, comme l'illustre agriculteur dont j'ai parlé, m'avait forcé à vendre mon attelage. Je fais labourer 30 fois mes 120 arpents par toutes les charrues qui sont à 4 lieues à la ronde. 3 labours pour chaque arpent coûtent 12 livres. C'est un prix fait. Il fallut donner 30 façons par arpent. Le labour de chaque arpent me coûta 120 livres. La façon de mes 120 arpents me revint à 14 400 livres. Et alors ma récolte, qui se monte année commune dans mon pays à 300 setiers, mon taille est vrai à 330, mais qui a 20 livres le setier, me produisirent 6 600 livres. Je perdis 7 800 livres. Il est vrai que j'eus la paille. J'étais ruiné, abîmé, sans une vieille tante qu'un grand médecin dépêcha dans l'autre monde, en raisonnant aussi bien en médecine que moi en agriculture. Qui croirait que j'eus encore la faiblesse de me laisser séduire par le journal de Boudot? Cet homme-là, après tout, n'avait pas juré ma perte. Je lis dans son recueil qu'il n'y a qu'à faire une avance de 4 000 francs pour avoir 4 000 livres de rente en artichaut. Certainement, Boudot me rendra en artichaut, ce qu'il m'a fait perdre en blé. Voilà mes 4 000 francs dépensés et mes artichauts mangés par des rats de campagne. Je fus hué dans mon canton, comme le diable de Pape Figuière. J'écrivis une lettre de reproche fulminante à Boudot. Pour toute réponse, le traître s'égaya dans son journal à mes dépens. Il me nia impudemment que les Caraïbes fussent les rouges. Je fus obligé de lui envoyer une attestation d'un ancien procureur du roi de la Guadeloupe, comme quoi Dieu a fait les Caraïbes rouges ainsi que les nègres noirs. Mais cette petite victoire ne m'empêcha pas de perdre jusqu'au dernier sou toute la succession de ma tante pour avoir trop cru les nouveaux systèmes.